L'ISF, en cela, a déjà produit des dégâts en France et dans l'économie française.
10 000 contribuables sont partis de France parce qu'ils étaient assujettis à l'ISF.
C'est bien pour que ces personnes-là puissent investir cet argent dans l'économie réelle.
L'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, cristallise une grande partie des tensions qui traversent la société française. Créé il y a 30 ans sous François Mitterrand, très largement remanié, d'aucuns diraient supprimé de facto au 1er janvier 2018 par Emmanuel Macron, a-t-il une vraie utilité économique ou une simple portée symbolique? Certains y voient l'alpha et l'oméga de la justice fiscale, de la contribution des plus riches à l'effort collectif. D'autres y voient au contraire un outil inutile qui n'a comme seul effet que de faire fuir les plus grosses fortunes hors des frontières françaises. Bonjour Frédéric Douet.
Bonjour Nicolas Martin.
Vous êtes professeur de droit fiscal à l'université de Rouen, Normandie. Est-ce que l'ISF est un impôt efficace?
Ce qui est intéressant de faire, c'est de faire une comparaison entre l'ISF et l'impôt sur la fortune immobilière tel que nous le connaissons maintenant. Pour faire simple, de 1989 à 2017, c'est l'ISF qui s'est appliqué et à compter du 1er janvier 2018, c'est l'IFI qui a pris le relais. D'après les statistiques, on avait 358 000 foyers fiscaux qui étaient soumis à l'ISF et avec l'IFI, on passe à 150 000. Mais corrélativement, et c'est surtout ça qu'il faut noter, c'est que le produit de l'ISF était d'environ 5 milliards par an et le produit de l'IFI, l'année dernière, a été d'1,5 milliard. Le produit de l'impôt sur la fortune a littéralement fondu. Et ça, pour le comprendre, il faut savoir une chose, c'est que parmi les gens qui sont soumis à l'impôt sur la fortune, en réalité, je pense qu'il faut faire une distinction entre les riches et ceux qui sont très riches, voire très très riches. On a 70% des foyers fiscaux qui étaient soumis à l'impôt sur la fortune, qui avaient un patrimoine composé à 80% d'immobilier. Et puis, pour les 30% restants, bien la tendance s'inverse. Ça veut donc dire que plus on est fortuné, moins l'immobilier représente une part importante du patrimoine.
Est-ce que, comme je le disais dans l'introduction, l'ISF a de facto un effet dissuasif que l'on peut quantifier pour les grosses fortunes?
Les partisans de l'impôt sur la fortune vous disent c'est une bonne chose de l'avoir recentré sur l'immobilier puisque ça va drainer les économies des Français vers les entreprises. Et puis à l'inverse, les opposants à l'impôt sur la fortune, que ça soit l'ISF ou l'IFI d'ailleurs, c'est le même raisonnement, vous disent c'est un repoussoir fiscal et par exemple nos voisins européens appelaient plutôt l'ISF l'invitation à sortir de France. Et la difficulté, c'est qu'entre les deux, on n'est pas capable de dire. En tout cas, moi je ne suis pas capable de dire qui a raison et qui a tort.
Que disent les comparaisons avec les autres pays européens? Ceux qui sont partisans de sa suppression disent qu'aujourd'hui, plus personne, la France est le dernier pays au monde à appliquer ce type d'impôt. Est-ce que c'est vrai?
À part la France, on trouve le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, effectivement. Donc les États européens qui continuent à appliquer un impôt sur la fortune sont minoritaires, mais beaucoup d'États l'ont supprimé pour faire du dumping fiscal et pour attirer un certain nombre de grosses fortunes. On a un certain nombre de contribuables très fortunés qui se sont exilés fiscalement en Belgique et en Suisse.
Vous disiez tout à l'heure, Frédéric Douet, que le produit de l'impôt sur la fortune était de 5 milliards par an dans son ancienne formule, qu'il est aujourd'hui d'1,5 milliard par an. Quand on met ça en regard au budget de l'État, on dit que c'est une goutte d'eau. Alors effectivement, est-ce que c'est un impôt strictement symbolique ?
Par rapport à l'échelle du budget de l'État, on reste quand même sur des prélèvements dont le produit est relativement symbolique.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des chiffres qui montrent que depuis le 1er janvier 2018, il y a moins d'exil fiscal qu'il n'y en avait avant?
Non, là aussi, dans ce domaine, on entend une chose et son contraire. Alors la philosophie de l'impôt sur la fortune était de dire il faut recentrer l'impôt sur la fortune sur l'immobilier pour inciter les Français à diriger leur économie vers les petites, moyennes entreprises et grosses entreprises. Tout ça n'est pas quantifiable. J'ai juste deux remarques à formuler. La première, c'est que c'est quand même un discours fiscal clivant qui consiste à opposer l'immobilier à l'économie dite réelle, qui consiste à opposer par ailleurs les retraités aux salariés, etc., etc. Tout ça est très clivant. Et le fait de dire que l'immobilier n'est pas l'économie réelle, je trouve ça quand même assez choquant parce qu'il ne faut pas oublier que le secteur de l'immobilier, ça représente plus de 400 000 entreprises. C'est 126 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc l'immobilier, c'est aussi l'économie réelle. Donc finalement, est-ce que la solution ne serait pas de rétablir l'ISF tel qu'on le connaissait auparavant et de réinstituer parallèlement une réduction d'impôt qui existait, qui était la réduction d'impôt ISF PME. Si vous investissez dans les entreprises, vous aurez le droit à cette réduction d'ISF. Elle sera déplafonnée et votre réduction d'ISF sera égale à 100% des sommes que vous aurez versées dans les entreprises, dans la limite de l'impôt, bien évidemment.
C'est une réalité aujourd'hui économique de dire qu'il y a des gens qui sont retrouvés assujettis à l'ISF ou aujourd'hui à l'IFI simplement parce qu'ils possédaient un bout de terrain qui d'un seul coup avait pris une valeur démesurée?
Oui, c'est une réalité, mais ça reste quand même des cas qui sont marginaux, pour ne pas dire très marginaux.
On voit hein, dans le débat public de ces dernières semaines que cette suppression de l'impôt sur la fortune cristallise beaucoup de passion. Est-ce que le fait de maintenir cette position de la suppression de l'ISF, de sa transformation en IFI, est-ce que ça peut avoir des effets sur le consentement général à l'impôt de la population ?
Oui, effectivement, lorsqu'on regarde les sondages, on s'aperçoit qu'il y a énormément de contribuables français qui sont favorables à l'impôt sur la fortune, généralement ceux qui n'y sont pas assujettis. Le problème, c'est aussi le taux de l'impôt sur la fortune. Pour la petite histoire, le taux est le même qu'en 1982. La tranche marginale du barème, c'est 1,5%. Et à l'époque, ce taux avait été fixé et on avait pris 10% du rendement des obligations à terme du Trésor sur 10 ans. Et à l'époque, le rendement était de 15%. Donc à l'époque, ça semblait cohérent. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on a calqué purement et simplement le même tarif. Or aujourd'hui, le rendement des obligations à terme du Trésor est légèrement supérieur à 0,6%. Donc je pense que pour satisfaire tout le monde, effectivement, on pourrait rétablir l'ISF en réinstituant la réduction d'impôt dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis surtout, pour éviter que les personnes assujetties à cet impôt ne soient trop pressurisées, il faudrait aussi revoir à la baisse le barème de l'impôt sur la fortune.
Comment expliquer, pour conclure, Frédéric Douet, que aujourd'hui le sentiment collectif soit que les plus riches, pour les raisons que vous avez expliquées, sont ceux qui payent le moins d'impôts, qui participent le moins à l'effort collectif, et que quand les impôts s'accumulent, il y a effectivement tout de même un effet confiscatoire sur les plus grandes fortunes.
C'est dû tout simplement à l'architecture de notre système fiscal tel qu'il est bâti. Nous sommes en 2019, mais nous avons un système fiscal qui date, l'impôt sur le revenu a été conçu en 1914 et 1918, remanié en 1959, et depuis c'est toujours le modèle qui perdure. Et puis la conséquence actuellement, c'est qu'effectivement les personnes qui sont très aisées, voire très très aisées, paient moins d'impôts finalement que les classes moyennes et les classes moyennes supérieures. Donc la solution, c'est d'avoir la volonté, un jour ou l'autre, on nous l'avait promis depuis M. Sarkozy, puis ensuite depuis M. Hollande, et après avec le président Macron. On nous avait prédit plutôt un grand Big Bang fiscal. Il faudra en réalité revoir complètement le système fiscal français et repenser l'impôt tel qu'il est bâti actuellement.
Comment faire, en quelques mots, pour contraindre les plus fortunés à s'acquitter de l'impôt en France sans s'exiler au cas où, effectivement, il y a des nouvelles tranches marginales de l'impôt ou le rétablissement de l'impôt sur la fortune ?
Alors ça, effectivement, c'est un problème. On pointe du doigt un certain nombre de grands patrons qui, bien que dirigeants des entreprises françaises, sans citer de nom, sont domiciliés fiscalement hors de France. Il faut se dire aussi que la morale et le droit fiscal, généralement, font 2, voire 3, voire 4, et que s'ils s'installent effectivement à l'étranger, c'est probablement condamnable d'un point de vue moral, puisqu'ils dirigent des grandes entreprises françaises. Mais c'est ce que l'on appelle de l'évasion fiscale, c'est-à-dire que c'est mettre à profit les conventions fiscales internationales telles qu'elles existent actuellement, et les systèmes fiscaux de nos voisins européens qui pratiquent le dumping fiscal, encore une fois. Et donc, dans tout ça, finalement, il n'y a rien d'illégal. C'est simplement condamnable moralement, mais en tout cas, du point de vue de la logique fiscale, ça n'est pas condamnable.
Donc, en termes de droit, il n'y a rien à faire.
Il n'y a rien à faire, sauf à dénoncer les conventions internationales ou à les renégocier. Mais pour cela, il faut être deux. Et bien évidemment, nos voisins qui pratiquent le dumping fiscal ne sont pas très pressés de renégocier ces conventions.
Merci beaucoup, Frédéric Douet. Je rappelle que vous êtes professeur de droit fiscal à l'Université de Rouen-Normandie.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.